Les échos de vacarme.
Les échos de vacarme.
Les échos de vacarme.
Pollution de l'eau, une peur bleue.
Raphaël Bouchet.
Bonjour Vacarme, merci pour votre émission sur la pollution de l'eau. Si j'ai bien compris, on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc le triazole sur lequel on se focalise, c'est l'arbre qui cache la forêt. J'aimerais bien savoir combien d'autres produits chimiques on boit à notre insu.
Je souhaiterais réagir à votre émission concernant donc les pollutions du Rhône et du Léman. On fait souvent référence à des entreprises suisses qu'on considère comme un fleuron de notre pays, donc aussi comme forme d'identité. Et lorsqu'on voit des grandes firmes comme Nestlé ou Syngenta, qui ont quand même un impact assez fort sur notre environnement, j'estime qu'on devrait aussi avoir un raisonnement plus profond pour aussi avoir une forme d'éthique concernant notre gestion de notre environnement et notamment de nos cours d'eau. Et qu'il serait quand même aussi intéressant que nos politiques puissent aussi prendre les choses plus au sérieux et avoir une forme aussi de transparence vis-à-vis de la population pour des raisons de santé publique déjà premièrement et aussi pour nos futures générations, toute orientation politique confondue. Voilà.
Oui, moi je pense que c'est logique que les grandes entreprises qui sont ici, qui viennent de l'étranger, qui payent moins d'impôts ici, et c'est pour ça qu'ils viennent là, que eux, quand ils font des cochonneries chez nous, il faut qu'ils payent. Et il faut aussi qu'ils s'intègrent, point de vue propreté, point de vue loi et tout, aux lois suisses. C'est un minimum.
L'autre problème, c'est vraiment les rivières. L'Office cantonal de l'eau, par exemple, à Genève, ne fait pas son travail. Par exemple, quand ils découvrent que dans une analyse ponctuelle, la norme est dépassée de 50 fois. On demande qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils disent que le mois d'après, il n'y avait plus, donc ils n'ont rien fait. Ou il y a des pollutions chroniques et puis on suit ces pollutions chroniques. Puis une fois qu'on a découvert que c'est une entreprise qui déverse des jus inappropriés dans la rivière, bon, ils disent l'entreprise est partie, donc on va rien faire. Donc il y a une sorte de manque de réactivité des organismes de contrôle. Et toujours une guerre de retard, c'est clair. Les PFAS étaient là depuis longtemps, on commence seulement à les analyser maintenant. Les DDP quinones, on n'a pas encore commencé à les analyser. Et puis finalement, il y a toute la gestion des eaux qui est complètement fausse. J'habite au bord de l'Air, il n'y a plus de rivière. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on pompe toutes les sources passent par la station d'épuration, celle de Nédan qui va être agrandie. Donc, on n'a plus aucune chance d'avoir une rivière correcte sur le canton. Enfin bon, je vous remercie beaucoup d'avoir abordé ce sujet qui me touche. Et à bientôt 70 ans, je me rends compte que mes combats ont été vains pendant toutes ces années. Merci beaucoup et bonne continuation.
Les échos de vacarme.
On apprenait en septembre 2025, plus de 60 tonnes d'un micropolluant appelé 1,2,4 triazole ont été déversées dans les eaux du Rhône et du Léman par l'industrie agrochimique. Syngenta, la multinationale d'origine suisse, passée en main chinoise en 2017, en est la principale responsable. Comment dépolluer? Qui va payer? La loi fédérale sur la protection des eaux impose le principe du pollueur-payeur, mais la procédure administrative en cours du canton du Valais et de la ville de Lausanne contre Syngenta prendra certainement plusieurs années. Si le 1,2,4 triazole ne semble pas nocif pour la santé, il s'ajoute néanmoins à la très longue liste des micropolluants déjà présents un peu partout, dans l'eau, dans l'air, dans l'alimentation. Quels risques nous font courir ces pollutions lentes et invisibles qui se déversent dans l'eau? Quels enjeux pèsent sur cette ressource irremplaçable? Pour en parler, nous avons le plaisir ce matin de recevoir l'écotoxicologue Nathalie Chèvre, professeure associée à la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et le géographe Christian Bretot, professeur associé en gouvernance de l'eau et co-directeur de la chaire UNESCO en hydropolitique de l'Université de Genève. Bonjour à vous aussi.
Bonjour.
Et bienvenue dans cette émission. Nathalie Chèvre, je crois qu'il nous faut d'abord un petit cours de chimie. Le 1,2-4-triazole, c'est quoi?
Alors, le 1,2-4-triazole, c'est un produit de dégradation et à la fois un produit qui sert à former des molécules chimiques. Donc, vous imaginez que quand on crée une molécule chimique, c'est un peu comme des Legos. On va assembler différents éléments pour créer cette molécule à la fin. Et un des éléments, c'est le 1,2-4-triazole. Et une fois que cette molécule se retrouve dans l'environnement, celle qu'on a produite, elle va se dégrader. Donc, les petits éléments vont se séparer et le 1,2-4-triazole est un de ces éléments.
Et donc, il sert à fabriquer principalement des fongicides pour l'agriculture, pour les médicaments également?
Il est à la base de plusieurs substances chimiques, mais notamment de certains fongicides utilisés comme pesticides.
Mmh. Alors, je le disais tout à l'heure, 60 tonnes ou plus de 60 tonnes, c'est un chiffre qui est très spectaculaire, peut-être très inquiétant aussi. Et pourtant, on nous dit qu'il y a peu de risques pour la santé, ou en tout cas, pas de risques connus pour la santé.
Alors d'abord, les 60 tonnes, ils sont distribués dans le léman. Donc les concentrations en elles-mêmes sont relativement faibles, de l'ordre du microgramme par litre. Ça représente à peu près un sucre dans une piscine. Donc c'est vraiment très faible. Mais par contre, c'est vrai qu'on sait que certains de ces polluants ont des effets sur les poissons, sur la vie aquatique ou sur nous à ces concentrations-là. Dans le cas du 1,2-4-triazole, il y a un rapport qui a été fait sur la base des données actuelles connues sur la santé humaine et il semble que cette métabolite, ce produit de dégradation, ne soit pas si problématique pour l'homme. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'en fait, on s'intéresse à cette molécule parce qu'on l'a appelée métabolite pertinente. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la substance dont elle est originaire a une propriété problématique pour l'homme, en l'occurrence ici la tératogénicité, c'est-à-dire des risques pour le fœtus. Donc, par précaution, on va déclarer cette métabolite pertinente en se disant que peut-être elle pourrait garder ces caractéristiques-là, mais on n'en sait rien.
Et elle a été déclarée pertinente il y a une année. Ça veut dire que pendant des années, la multinationale Syngenta a déversé ce triazole de manière légale, on peut dire.
Alors, c'est pas aussi simple que ça. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils l'ont déversé de manière qui n'est pas illégale. Dans le sens qu'il n'y a pas de loi qui donne des normes pour ces molécules-là. Donc, il y a, dans les lois suisses, il y a des molécules qui sont réglementées. Celles-là ne le sont pas. Et du coup, les déversements sont acceptés parce qu'il n'y a pas de normes.
Christian Bretot, aidez-nous à comprendre d'abord pourquoi l'eau est si précieuse et en quoi elle est irremplaçable.
L'eau est vitale, simplement, c'est un droit humain fondamental. Le droit à l'accès à une eau de qualité est un droit fondamental. Donc l'eau a évidemment un statut très particulier au sein de la société en règle générale, dans le sens où, de la façon dont la société aborde la ressource, mais aussi après du point de vue réglementaire. On parle ici de santé publique, on parle d'atteinte directe à l'environnement. Donc évidemment, c'est une ressource qui ne peut pas être régulée de façon complètement... Elle doit être régulée d'une façon assez spécifique et maintenir en fait ces grands principes qui permettent le droit humain, l'accès à l'eau comme un droit humain.
Vous êtes spécialiste en gouvernance de l'eau. On a entendu sur le répondeur de Vacarme deux personnes qui avaient une petite idée sur la question. En tout cas, des gens qui parlent de gestion qui manque d'éthique, de gestion fausse. Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous recevez ces messages?
Alors, je pense qu'il faut quand même être prudent sur ces enjeux-là, parce qu'évidemment, quand on parle de la mise en œuvre de politiques publiques, on parle de cycles politiques qui sont extrêmement complexes et difficiles à mettre en œuvre. Quand on parle d'une politique publique, on parle d'un tas de réglementations, d'un arsenal juridique qui met plusieurs années, d'une part, à se définir, à se mettre en œuvre, puis ensuite que l'on doit forcément évaluer. Donc, d'une part, je pense qu'il faut remettre ça dans le contexte d'une machine qui est assez lourde à mettre en place et qui, malheureusement, effectivement, ne correspond pas toujours, en fait, au rythme lié aux dégradations de l'environnement ou aux agissements qui peuvent être faits sur des produits chimiques ayant des impacts sur l'environnement. Donc d'une part, il faut voir ce contexte plus large, mais d'autre part, effectivement, comme je disais tout à l'heure, la ressource en eau est une ressource particulière et doit être protégée de façon très spécifique. Et du coup, on peut être en attente, en tout cas par rapport à ce bien commun, d'avoir vraiment une emphase, une attention particulière de la force publique sur le respect des lois, ça c'est certain.
Nathalie Schoeff, qu'est-ce qui vous a fait réagir dans les messages qu'on a entendus?
Alors, il y a un message que j'ai trouvé intéressant d'une auditrice qui dit que c'est des entreprises étrangères qui viennent polluer chez nous. Ce n'est pas le cas. Là, on est typiquement sur des pollutions industrielles et on a eu cette problématique sur le Rhône avec le mercure il y a des années où on a dû aussi prendre des mesures parce qu'il y avait trop de mercure dans le Léman. Donc, c'est des entreprises suisses qui polluent en Suisse. Et c'est vrai qu'il y a souvent cette idée qu'en Suisse, on fait les choses très bien et qu'on fait les choses propres en ordre et c'est malheureusement pas forcément le cas. Et c'est vrai que le cadre législatif au niveau des effluents industriels est pour le moment relativement manquant en Suisse.
Une personne demandait aussi combien de micropolluants on ingère, on boit à notre insu. Vous avez un chiffre à avancer ?
Alors, je n'ai aucun chiffre à vous avancer, malheureusement, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que sur le marché en Europe, il y a à peu près 150 000 substances chimiques. Ces 150 000 substances chimiques peuvent se retrouver dans l'environnement et par exemple dans les eaux. Et dans les eaux, elles peuvent se dégrader, comme le cas du 1,2-4-triazole, donnant naissance à 10, 20 autres molécules différentes. Donc, potentiellement, on retrouve des milliers, des millions même de substances chimiques dans notre environnement, mais dans l'air, dans l'eau et dans les sols. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est grave ? C'est ça la réelle question. Parce qu'effectivement, comme le disait aussi quelqu'un au début, on trouve tout ce qu'on cherche, mais à des concentrations très faibles et pas tout n'est grave non plus.
Tout de suite, nous nous rendons à Olon, dans le canton de Vaud, où se réunissent les membres de l'association de protection de l'environnement Chablair. Au cœur de cette séance présidée par la députée verte valaisanne Carole Morisot, une question. Que faire face à la multinationale Syngenta ?
Alors, je passe au point 3 de l'ordre du jour. Ce point concerne la pollution des eaux. Et je vous ai envoyé les réponses qu'on a reçues suite à l'interpellation au niveau du Grand Conseil sur le triazole. Enfin, moi, j'ai quand même 2-3 choses qui m'interpellent quand même un petit peu, notamment les quantités de substances qui sont surveillées en continu à l'apport du C. Il y a quand même 300 substances qui doivent être surveillées. Ces polluants vont quand même dans le Rhône et ils vont dans le lac Léman, qui est quand même un réservoir d'eau potable. Et puis, les rejets des steppes, comment elles sont analysées ? Et la loi prévoit surtout que c'est l'entreprise elle-même qui doit...
qui a la steppe.
Voilà, qui possède la steppe, qui doit faire ses analyses et annoncer les rejets des steppes, ses autocontrôles. Et ça, je trouve quand même qu'il y a... C'est quand même assez délicat. Alors moi, je ne sais pas si vous voulez vous exprimer par rapport à ça.
Moi, par rapport au... On revient sur le triazole au départ. Mm-hmm. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que cette pollution a été annoncée. Mm-hmm. Apparemment, ça fait déjà des années qu'il y avait cette pollution. Et en quelques jours ou quelques semaines, Syngenta a trouvé des solutions pour... éviter que ce produit se déverse dans le Rhône. Donc, ils auraient déjà pu y penser avant. C'est un peu surprenant, ça.
C'est un petit peu leur fonctionnement. Tant que ce n'est pas mis comme quoi ce produit est interdit ou doit être retenu, en quelque sorte, ils respectent la loi, à quelque part. Et c'est parce que le triazole a été mis dernièrement comme substance...
Non, c'est un vieux truc.
Oui, mais il n'était pas interdit au niveau fédéral.
Non.
Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ne se sont pas préoccupés par rapport à cette pollution.
Mais dans l'ancien siècle, les fongicides, on disait non, ils sont bons. Et c'est surtout des insecticides, des herbicides qui sont méchants. Mmh. Alors, on a un peu fermé les yeux, j'ai l'impression.
Je pense qu'on pourrait faire une intervention au niveau du Chablair, de poser des questions au SEN par rapport à ça. Oui. Parce que poser des questions à Syngenta, ça ne sert à rien.
Non,
nous répondent pas.
Rien.
Quels sont les polluants qui sont émis dans l'air suite à l'incinération des eaux chargées en triazole? Parce qu'avec ça, ils ont brûlé cette substance. Qu'est-ce qui ressort? On ne sait pas.
Ça
ne va plus dans l'eau.
Aucun danger
jamais.
Pour la qualité de l'air.
Ça ne présente jamais de danger. Mais peut-être qu'on peut demander qu'est-ce qui ressort et quelles ont été les analyses. Est-ce qu'ils ont fait des analyses? Moi, je pense qu'il faut faire une intervention politique puis demander que les contrôles inopinés soient faits par le canton. Et qu'on ne peut pas que compter sur les entreprises elles-mêmes. On part toujours dans le principe qu'on fait confiance aux entreprises. Oui, une grande partie, la majorité des entreprises, elles jouent le jeu correctement, mais il y en a certaines. C'est toujours à la limite. Et on a vu avec Tamol, ils rejetaient dans le Rhône des substances illégalement. Et puis, gentiment, maintenant, il faut qu'on accepte, au niveau politique, d'engager plus de personnes pour faire ce genre de contrôle. On a demandé la liste des pesticides qui sont produits sur le site de Syngenta. On ne demande pas comment ils ont été fabriqués, on demande juste le nom des produits qui sont faits sur le site. Et le service de l'environnement a répondu comme quoi ils ont demandé à Syngenta et Syngenta a refusé. Donc on doit demander directement à Syngenta si on veut avoir la liste, qu'ils nous donneront jamais. Donc au bout d'un moment, moi je trouve que peut-être qu'on pourrait faire appel aussi au préposé à la protection des données. Si chaque fois on nous répond qu'on ne peut pas nous donner les réponses qu'on demande, elle est où la transparence dans tout ça ? Encore une fois, je ne vais pas demander le processus. Je ne demande pas le processus, parce que je comprends que c'est un processus industriel qui est secret. À cause de la concurrence, ils ne peuvent pas nous donner, c'est logique. Mais juste le nom.
C'était un reportage signé Quentin Bollen. Christian Bretteau, vous nous parliez tout à l'heure de l'eau comme d'un bien commun. Qu'est-ce que vous pensez des inquiétudes, des revendications qu'on vient d'entendre ?
Déjà, ça fait énormément plaisir en fait, d'entendre ces groupes de citoyens qui se mobilisent sur des questions comme celle-ci. On a quelque part un peu dans l'évolution, notamment en Suisse, une société civile qui a tendu à s'éloigner en fait, de ses préoccupations environnementales pour la gestion de l'eau en particulier. Je voudrais quand même rappeler que notamment pour le Léman, quand les problèmes ont été pris à bras-le-corps, notamment avec l'établissement d'une commission internationale en 1963...
On va en parler un petit peu plus tard dans cette émission.
On a quand même eu des groupes de citoyens, notamment l'Association pour la sauvegarde du Léman, qui s'est beaucoup en fait, mobilisée pour que ce type d'initiative puisse se concrétiser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pendant longtemps en tout cas, on a eu ces groupements de la société civile un peu plus absents sur ces enjeux environnementaux. Donc ça fait très plaisir d'entendre ces groupes de citoyens qui se mobilisent. Et on en a besoin, évidemment. On aura toujours un décalage entre l'évolution des cadres réglementaires et la pratique des acteurs, notamment industriels. Et on a besoin forcément de groupes tels que ceux-ci qui puissent mettre la pression sur l'acteur public pour essayer de changer les pratiques et de mettre simplement les responsables devant leurs responsabilités.
Mais quels sont les risques que court la région, mais plus loin la Suisse aussi, avec ces pollutions ?
Il y a forcément un risque environnemental qui est important, mais pas seulement pour la Suisse, aussi à l'échelle transfrontalière. Quand on parle notamment du Léman, on parle de la France également, on parle d'un Rhône aval qui part vers la France, avec notamment un pays, la France, qui a des obligations au regard du droit européen. Donc ce n'est pas seulement une question suisse aux Suisses, c'est aussi une question d'un impact sur un bassin de vie commun qui est constitué par ce bassin, cette cuvette lémanique quelque part.
Parce qu'on dit souvent que la Suisse est le château d'eau de l'Europe, qu'elle détient 6% des ressources en eau sur le continent.
C'est effectivement le château d'eau de l'Europe, puisqu'on a la plupart des grands fleuves européens qui partent des Alpes, et en l'occurrence des Alpes suisses en grande partie, que ce soit pour le Pô, le Rhin, le Rhône également. Mais néanmoins, ça met le pays également face à certaines responsabilités, à la fois sur des enjeux quantitatifs, de comment est-ce qu'on opère simplement l'échange d'eau, le transfert d'eau, mais aussi sur les enjeux qualitatifs, évidemment.
Nathalie Chey, votre réaction à cette séance de l'association Chablair? On a l'impression, souvent, que des enjeux économiques, un peu secrets aussi, priment sur le droit environnemental.
Oui, alors effectivement, ce n'est pas une surprise. Ça fait 20 ans qu'on a découvert qu'il y avait des pollutions industrielles dans le Léman, pas seulement liées à Syngenta, mais liées à d'autres grandes entreprises qui sont sur le bassin amont du Rhône. Et puis, c'est clair qu'il existe, vous l'avez cité avant, le principe du pollueur-payeur. Mais de l'autre côté, vous avez deux principes qui sont plutôt liés à l'économie, qui prennent en général le pas sur le principe du pollueur-payeur. C'est la question de la libre concurrence, qui fait qu'on ne peut pas avoir accès à ce qui est produit, la quantité qui est produite. Et c'est pour ça que c'est les entreprises qui font de l'autocontrôle, parce qu'on n'a pas le droit d'aller savoir ce qu'ils produisent. Et l'autre chose, c'est le principe de proportionnalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contraindre une entreprise à prendre des mesures pour traiter ses effluents si ça va la mettre en danger, si c'est trop cher, etc. Et ça, en général, ça prend le pas sur le principe du pollueur-payeur. Donc c'est ce qu'on entend là. C'est vrai que quand on pose ces questions à ces grandes entreprises, on n'a en général pas de réponse, voire la réponse qu'on a eue il y a 20 ans quand on a discuté de ça avec eux, de ces pollutions industrielles, si vous nous embêtez trop, on va délocaliser. Donc c'est aussi une manière de mettre la pression pour dire qu'on ne veut pas de cadre législatif trop strict.
Une question juste, ça veut dire qu'en 20 ans, vous n'avez pas vu évoluer grand-chose, ou qu'il y a quand même une forme d'éthique qui parfois arrive jusqu'à ces entreprises?
Alors, je voudrais vous dire que j'ai vu évoluer les choses de manière positive. Alors, je les ai vues évoluer de manière positive jusqu'à un certain point, et je les vois vraiment revenir en arrière maintenant. Je dirais qu'à la suite de la dénonciation de ces pollutions industrielles, il y a des entreprises qui ont pris des mesures pour traiter leurs effluents, qui ont fait les choses mieux. Mais ces dernières années, on voit que le climat politique a complètement changé et on retourne complètement en arrière. Donc je dirais qu'on est un petit peu au même point qu'il y a 20 ans, même si on a fait des progrès dans les 10 années entre deux.
Christian Bretteau.
Oui, non, je voulais simplement préciser aussi que quand on parle de qualité de l'eau, on se retrouve quand même face à un enjeu qui est de taille, c'est l'établissement du lien de causalité, avec des pollutions qui sont souvent diffuses. Donc là, sur Syngenta, on a un point d'émission qui semble relativement clair, et on voit aussi que l'entreprise va aussi jouer sur la validation, sur la preuve, sur ce point de causalité. Mais dans de nombreux cas, on a des pollutions dont on ne connaît pas l'origine en termes d'émissions. Et donc, pour retracer ce lien de causalité et établir de nouveau les responsabilités, apporter la preuve est extrêmement compliqué.
Là, on parle de grandes entreprises. Vous savez, sur les petites rivières, dans tous les cantons, vous avez des pollutions les vendredis quand les gens vidangent leurs cuves et puis on a des pics de pollution. Donc c'est pas juste les grandes entreprises, les effluents industriels sont un réel problème en Suisse et je pense que c'est important que les gens s'en rendent compte parce que de nouveau on a l'impression que chez nous on fait tout bien et c'est pas vraiment le cas. Et là, on manque vraiment d'un cadre législatif pour contraindre, alors on manque de surveillance, comme ça a été dit, mais on manque aussi d'un cadre législatif pour contraindre les entreprises à faire quelque chose. Et souvent, ils se disent, c'est pas bien grave, c'est juste quelques litres, mais les quelques litres, tous les poissons sont morts en aval. Donc, c'est quand même des conséquences assez importantes. Et là, je pense que vraiment, en Suisse, il y aura un effort à faire sur les rejets industriels.
Christian Bretot.
Oui, non,
vous avez l'air tout à fait d'accord.
Je rejoins tout à fait ma collègue sur la question. Moi, j'ai été passablement choqué d'entendre la difficulté d'accès aux données. Le principe de transparence est un principe de base, en fait, des principes de gouvernance. Et quand je reviens sur le propos que j'ai tenu plus tôt dans l'émission, mais si on considère l'eau comme un droit humain fondamental, la question de l'accès à données devrait être également garantie sur ce type de pollution.
Brûler de l'eau, Nathalie Chèvre, quelles conséquences pour l'air ?
Alors, je pense que c'est pas si grave pour la pollution de l'air parce qu'en général, maintenant, dans les entreprises où c'est brûlé à très haute température, donc normalement, il n'y a pas formation de dioxine et autres, mais en plus, il y a des filtres pour laver les fumées et tout. Moi, ce qui me dérange plus, c'est déjà une solution qui avait été prise par l'ANSA, justement, qui aussi avait des pollutions industrielles qui arrivaient dans le Léman avec des pesticides. Et moi, ce qui me pose un peu plus problème, c'est brûler de l'eau. Enfin, je pense que tout le monde intuitivement se dit que c'est, énergétiquement parlant, c'est pas terrible. Donc, il y a des moyens, il y a des systèmes de filtration qui existent, qui sont nettement plus coûteux, certainement, mais il y a des systèmes qui existent qui seraient beaucoup plus adéquats que de prendre l'eau et de brûler. Et la deuxième chose qui m'embête avec brûler l'eau, c'est qu'on peut très bien brûler le batch d'eau qui contient la substance qu'on en cherche et pas les autres. Donc ça ne résout pas le problème de manière globale. On va traiter juste ce que les autorités cherchent et le reste, ça pourrait être une manière de penser. Et le reste, on ne va pas le traiter et dans 10 ans, on se rendra compte qu'il y a une autre substance qui est aussi présente et qui a été émise pendant toute cette période. Donc, c'est un petit peu jouer au chat et à la souris, pour moi, de brûler l'eau.
Vous écoutez les Échos de Vacarme et nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour parler de la pollution de l'eau avec Nathalie Chèvre, écotoxicologue, et Christian Bretot, géographe. Avant d'embarquer avec les experts de la CIPEL, la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, on écoute Imani et les voleurs d'eau, la reprise d'une chanson signée Henri Salvador. Peut-être juste un exemple de ce rapport de force, puisque la chanson parle de ça, de gens qui volent, qui détournent un bien public. Est-ce que dans le monde, vous auriez d'autres exemples, Christian Bretot, de ce rapport de force entre une multinationale, par exemple, et un État ?
Ah, malheureusement, on a énormément d'exemples qui existent, hein, notamment dans des pays qui ont des cadres de réglementation qui sont moins fournis que le nôtre, par exemple, et qui laissent plus de marge de manœuvre à des entreprises publiques, justement, pour accaparer la ressource en eau. On le voit, par exemple, avec les entreprises qui produisent de l'eau minérale, qui vont acheter des sources d'eau dans des pays en développement.
Où ça ?
Par exemple, en Amérique du Sud, c'est une pratique qui a été assez répandue.
Il détourne la rivière, là-haut. Ils se moquent de nos misères, là-haut, là-haut. Si la soif nous affaiblit et si nos sources sont taries, tout l'eau, trop d'eau, vont périr l'un après l'autre, là-haut, là-haut. Il faut sortir nos fusils, là-haut, là-haut. Il faut lutter pour nos vies, mais d'abord nos terres sont les plus fertiles, c'est l'eau, et nous vivions si tranquilles de nos travaux, quand nous montions dans nos barques, lorsque nous pêchions dans le lac, heureux, heureux, ils veulent construire un barrage, là-haut, là-haut, c'est la vallée qu'ils saccagent. Là-haut, là-haut, ils inonderont nos villages et nous mettront dans des cages. Là-haut, comme des corbeaux, nous devons les empêcher. Là-haut, là-haut, de détruire nos foyers. Si beau, si beau, tous les hommes vont s'armer. Toutes les femmes vont les aider. Il faut de l'eau, il faut de l'eau, de l'eau, de l'eau.
Musique.
des contrats, c'est tout, qui leur donne tous les droits sur nous, sur nous. Ils veulent nous rayer du temps et puis du monde des vivants pour de l'argent, l'argent. Que ferions-nous dans leur ville?
On garde un échantillon en collection. Dans notre chambre froide, on a des échantillons de la CIPEL de 10 ans en arrière.
Et vous, ça fait combien de temps que vous faites ça, ce job ?
Moi, ça fait 20 ans.
Et comment vous l'avez vu évoluer ce lac en 20 ans ?
Bah, les changements climatiques, hein, donc on a connu le dernier brassage hivernal, ce qui est quand même quelque chose. On voit aujourd'hui qu'on a des épisodes plus violents et plus rapides. C'est intéressant aussi à analyser parce qu'il y a toujours quelque chose de... Tu vois, c'est pas un truc continu. Ouais. Il va y avoir un fort orage dans le Valais. On va avoir des apports importants. On va avoir de la matière nutritive. Tu vas avoir une période d'ensoleillement forte en été. Tu vas avoir un bloom algal énorme. C'est toutes des choses qui sont intéressantes à observer, quoi. Hein.
Le bloom, c'est quoi, un bloom ?
Le bloom, c'est quand toutes les conditions sont réunies. Il y a les nutriments, il y a la température, il y a l'ensoleillement. Et donc, les algues se développent à profusion.
C'est un disque qu'on va immerger dans l'eau et la transparence va nous donner une indication sur la quantité de phytoplancton présente dans le lac. Donc plus le disque descend profond, plus la transparence est grande et moins il y aura de phytoplancton. Donc en général, cette mesure de transparence peut être utilisée comme indicateur de qualité des eaux par rapport aux problèmes d'eutrophisation.
Là, vous le voyez, encore un chouïa, non ? Oui, oui. Encore un petit peu.
Ouais, là, moi, je le vois.
Je vois, ouais.
5,80. Combien ?
5,80.
Ah, ouais.
Ça pousse super vite.
Ah, ça a poussé, ça. Mais je vous disais, vous voyez bien que c'était très turbide, quoi.
Ouais, 10, 14 mètres.
Ah, oui. Voilà. On a perdu environ 10 mètres de profondeur par rapport à la dernière campagne, simplement en raison du fait qu'on a eu un beau temps, du soleil, des températures assez douces, et le phytoplancton a commencé à se développer.
Ça ne veut pas forcément dire que le lac est de mauvaise qualité.
Ah, du tout, non, là c'est plutôt bien. Ça montre qu'on a quand même une productivité et qu'on a du phytoplancton et que le zooplancton a suffisamment aura de la nourriture pour se reproduire et pour se développer. Lors des suivis de la CIPEL, on effectue également des prélèvements pour mesurer les micropolluants. En 2024, ils ont été réalisés lors de 4 sorties. La CIPEL demande l'analyse de 256 substances. Et en 2024, on avait détecté 79 substances quand même. Voilà.
C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Sur les 256, c'est vrai que ça fait pas beaucoup, mais quand on se dit qu'il y a quand même 79 substances non souhaitées dans le lac, ça fait beaucoup. La plupart de ces substances sont présentes à des concentrations relativement faibles et sont généralement en dessous des normes légales ou des normes de qualité environnementale. Néanmoins, on peut quand même se poser la question, parce qu'il y a beaucoup de substances, donc ça constitue un cocktail, et les organismes qui sont dans le lac peuvent peut-être être affectés par ce cocktail sur des durées de temps plus longues. Donc voilà, donc c'est vrai que je me pose quand même vraiment la question de savoir si actuellement les eaux du Léman sont vraiment optimales pour les organismes.
C'était un reportage signé Quentin Bollène. La CIPEL, pour Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, a été fondée en 1963. Expliquez-nous peut-être dans quel contexte, Christian Bretot.
Alors, le contexte d'établissement de la commission, c'était une forte eutrophisation, effectivement, du léman.
Eutrophisation, il va falloir expliquer.
Qui est alors une concentration, notamment, de phosphore, qui a des incidences extrêmement importantes, notamment sur la production d'algues. Et avec, évidemment, des problèmes simplement pour le fonctionnement du lac comme un écosystème. Un problème qui découlait notamment du phosphore, mais aussi du manque d'infrastructures d'assainissement sur le pourtour du lac, avec une croissance de la population assez importante sur le pourtour du léman. Donc, l'État suisse et français ont décidé de se mettre en commun et de définir un programme d'action en commun, notamment avec l'interdiction de certaines substances, mais aussi avec l'installation d'infrastructures d'assainissement qui ont permis une amélioration de la qualité de l'eau extrêmement importante depuis les années 60. Il faut quand même rappeler que à la fin des années 60, début des années 70, personne ne se baignait dans le Léman. Mm-hmm. Tout le monde considérait que c'était un lac extrêmement sale et qu'il n'était pas de suffisamment bonne qualité pour pouvoir s'y baigner. Alors aujourd'hui, évidemment, l'eau est de bonne qualité, mais on voit qu'on a de nouvelles problématiques qui émergent, notamment ces questions du brassage, d'absence de brassage en lien avec le changement climatique, qui illustrent quand même des limites dans la capacité d'action que l'on a aujourd'hui. Auparavant, on pouvait simplement gérer des substances, qu'on peut encore le faire aujourd'hui, notamment pour le triazole ou d'autres substances, mais on a aussi des enjeux qui dépassent largement notre échelle, sur lesquels on a beaucoup moins de levier d'action, malheureusement.
Alors, expliquez-nous mieux ce que c'est que ce brassage qui n'a pas eu lieu depuis 13 ans.
Le brassage résulte en fait de la différence de température entre les couches basses et les couches hautes du léman, et il faut que ce brassage puisse se faire pour justement éviter une trop forte eutrophisation. Et donc, justement, l'absence, l'augmentation des températures moyennes a réduit, en fait, a complètement fait disparaître ce mécanisme-là.
Mais vous dites que la CIPEL ne suffit plus pour faire face à ces enjeux, alors qu'est-ce que vous préconisez ?
Le problème est qu'aujourd'hui, on fait face à des problématiques qui sont globalisées. Quand on parle de changement climatique, on peut avoir la CIPEL qui est très efficace, elle ne permettra pas de régler le problème de l'impact du changement climatique à l'échelle locale. On voit des problématiques similaires, par exemple la moule quagga, qui colonise également les eaux du Léman, qui sont en fait des espèces invasives qui viennent au-delà du périmètre simple du bassin du Léman. Donc la question est de savoir comment faire pour agir dans ces conditions-là. Et malheureusement, au lieu d'essayer de traiter la source du problème, qui dépasse les capacités d'action que l'on a, on est obligé de passer sur des politiques d'adaptation.
Mmh. Qu'est-ce qui met particulièrement sous pression tout l'écosystème lacustre ? Est-ce qu'on peut faire une liste ?
Aujourd'hui, les grandes problématiques sont évidemment certaines pollutions diffuses. On voit les micropolluants qui sont très présents aujourd'hui dans les préoccupations politiques. On voit effectivement la moule quagga, qui est quand même une espèce qui colonise beaucoup et qui modifie beaucoup les écosystèmes lémaniques. Cette absence de brassage est certainement une question également. Et puis, on a un autre élément peut-être plus anecdotique, mais néanmoins problématique. C'est des stocks de munitions et d'armes qui ont été balancés dans le Léman dans l'après-guerre, dont on ne connaît pas très bien les effets en termes de pollution diffuse sur le long terme et surtout dont on ne connaît pas très bien les emplacements, avec des impacts notamment en termes de travaux sur les rives qui apparaissent de temps à autre et qui doivent être gérés.
Nathalie Chèvre, que dire de ce cocktail qui est mentionné dans ce petit reportage ?
Le cocktail de substances chimiques.
Effet cocktail.
Ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, ce qu'ils disent, c'est qu'ils font, elles analysent à peu près 250 substances. Ils en trouvent un peu moins de, 79. Il y en a beaucoup plus de substances qu'on n'analyse pas. Donc, on est vraiment sur la pointe de l'iceberg. Et puis, c'est clair que, individuellement, ces substances sont en dessous des normes. Et la plupart ne présentent pas un risque très important pour les espèces, voire pour la santé via l'eau potable, mais se pose la question du cocktail. Et là, j'aimerais vous donner une réponse, mais malheureusement, je n'en ai pas, parce qu'on n'a aucune idée de l'effet à très long terme d'une exposition à une multitude de substances chimiques.
D'accord.
On a cette même question, parce que l'exposition principale de l'homme, c'est pas via l'eau, c'est plutôt via l'air et puis via l'alimentation, mais on voit très bien que il y a des maladies humaines qui sont liées à ces substances chimiques. On parle de la fertilité chez l'homme, de l'obésité, de la puberté précoce. On se rend compte que ce cocktail a certainement un effet sur le long terme, sur la santé. Donc, c'est un peu la seule réponse que je peux donner.
Comment ça se fait qu'on retrouve des substances dans les eaux qui ont été interdites ?
Alors, sur la question de ces pollutions industrielles, je disais tout à l'heure que ça fait 20 ans qu'on a mis ça en évidence avec la CIPEL. Très simplement, parce qu'on a trouvé des substances, puis on s'est dit, c'est un peu bizarre, on va faire des bilans. Par exemple, il y avait des anesthésiants dans des quantités très importantes, puis on s'est rendu compte que ça pouvait pas être expliqué par la quantité de personnes qui subissent des anesthésies autour du Léman. Et de fil en aiguille, on est remonté au fait qu'il y avait des pollutions industrielles pour un nombre très important de substances. Je vous donne un exemple, la carbamazepine, qui est un antiépileptique, 98% de la quantité qui est dans le Léman est de source industrielle. Donc, à partir de là, le 1,2,4-triazole sur lequel se base l'émission, c'est un indicateur de ces pollutions industrielles. Il y en a d'autres, il y a d'autres substances qui sont dans ces mêmes effluents que le 1,2,4-triazole. Et certaines d'entre elles, c'est des substances qui sont produites chez nous, mais qui ne sont pas utilisées chez nous, mais qui sont utilisées et exportées à l'étranger. Donc oui, il arrive que dans le Léman, quand on fait des analyses, on trouve des substances qui ne sont pas autorisées, des pesticides non autorisés en Suisse, qui sont utilisés par exemple sur les cheptels de moutons en Nouvelle-Zélande, et on les trouve dans les eaux dues à ces effluents industriels. Alors les concentrations restent très faibles, mais c'est bien un indicateur d'effluents industriels présents dans le Rhône et dans le Léman.
Mais dans ce contexte, s'occuper du 1,2,4-triazole, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, comme le disait une auditrice. Enfin, pourquoi ça semble dérisoire. Alors, ça va coûter des millions d'assainir le pompage de l'eau.
Alors, il y a deux choses. Il y a la question de la santé du lac, sur la biodiversité, et la question de l'eau potable. La question qui est intéressante avec le 1,2,4-triazole, c'est qu'enfin, on s'intéresse vraiment à ces pollutions industrielles. Et si l'industrie fait quelque chose sur ces effluents, ça va servir à tous les autres polluants qui sont présents dans ces effluents. Donc, on aura des rejets moins importants dans le lac. Maintenant, si on considère la question de l'eau potable et du traitement de l'eau potable, là, on est un petit peu embêté en ce moment. Et je pense qu'il y aura des questions à se poser parce qu'il y a quelques années, vous vous souvenez, il y a le chlorothalonil dont on a parlé. Maintenant, il y a le 1,2,4-triazole. Et si chaque fois qu'il y a une nouvelle substance, on doit adapter le traitement, ça va coûter des millions à chaque fois à la collectivité. Et je pense que là, il faut arrêter de réfléchir au traitement, mais vraiment réfléchir à prendre des mesures à la source. Et c'est là que politiquement, moi, quelque part, j'attends un petit peu plus de pression.
Christian Bretot.
Oui, et dans ce cadre-là, notamment pour parler du Léman, la dimension transfrontalière, elle ajoute un degré de complexité. Parce qu'effectivement, agir à la source, changer les comportements, c'est effectivement le plus efficace en termes de gestion de la pollution. Néanmoins, on voit typiquement qu'entre la Suisse et la France, on a des visions très différentes sur cette question-là. Avec côté Suisse, la volonté d'agir plutôt à la sortie des stations d'assainissement et d'épuration de l'eau avec des nouveaux filtres, ce qu'on appelle une stratégie end of the pipe. Et du côté français, une perspective qui est très différente, où l'on dit justement, on va travailler avec les changements comportementaux. Il n'en est pas moins qu'on a un bassin en commun, donc en termes aussi de timing, de l'effet de ces différentes actions, on réserve des décalages et parfois des enjeux aussi de cohérence pour la gestion d'un bassin qui est partagé.
Et qui est très complexe et qui sert aussi à beaucoup de choses différentes.
Oui, évidemment, qui est très complexe à la fois sur les enjeux de quantité mais aussi sur les enjeux de qualité.
On peut en savoir un peu plus?
Sur les enjeux de quantité, on a quand même une situation qui est assez particulière puisque le Léman, la gestion, la régulation du Léman dépend de la partie suisse uniquement. C'est-à-dire que la France, malgré le fait qu'elle détient la grande partie de la rive sud, n'est pas du tout impliqué dans la régulation des niveaux du Léman. Les niveaux du Léman dépendent d'un acte intercantonal et donc la France n'a pas mot à dire. C'est aujourd'hui, ça a été un des grands objets de la négociation qui a découlé sur la signature il y a quelques mois d'un accord cadre sur le Rhône et le Léman par la Suisse et la France. Mais c'est vraiment le robinet, le barrage du Segey à Genève qui définit la régulation des niveaux du Léman avec évidemment, comme vous le disiez, une très grande complexité, de nombreux usages qui dépendent de cette régulation. Et donc le Léman qui est aussi un réservoir quelque part stratégique, très très important.
Est-ce que le Léman, voire même le Rhône, pourrait devenir à terme des entités juridiques?
Alors c'est un débat qui est aujourd'hui très présent, notamment dans la société civile, qui semble aussi apparaître notamment sur l'échelle politique. Il faut dire aujourd'hui que cette notion de personnalité juridique est au plan d'action de la CIPEL, ce qui ne veut pas dire qu'elle va se traduire par des actions politiques, mais elle est néanmoins là, en termes d'objectifs, en tout cas de réflexion. On a vu aussi qu'on a des groupes citoyens qui ont essayé de porter cette question à l'échelle du fleuve Rhône, par exemple. Donc on a en tout cas une volonté de la société civile d'utiliser cette notion de personnalité juridique pas forcément comme un but en soi, mais plutôt comme une façon de rediscuter de structures de gouvernance qui sont très cloisonnées. Comme je le disais tout à l'heure, quand on parle du Rhône notamment, si vous allez en France, sur les barrages du Rhône, il est écrit toujours la même phrase, le Rhône au service de la nation. Donc on est assez loin en fait du Rhône comme un écosystème en tant que tel. Donc c'est une vision très productiviste de l'eau qui a été développée au fil des années, à la fois pour le Léman et pour le Rhône. Et cette notion permet de réfléchir à d'autres façons d'interagir avec l'eau et de structurer des systèmes de gouvernance peut-être plus inclusifs, plus participatifs autour de la gestion de l'eau.
Et qu'en est-il du Rhin? Nathalie Chèvre.
Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une commission du Rhin, hein, comme la CIPEL, qui est la commission du Léman. Là, il y a une commission du Rhin qui a été mise en place après Schweizerhallé. Donc, si on se souvient, en 86, il y a eu cet incendie chez Sibagaygi à Bâle, et les eaux d'incendie ont fini dans le Rhin et en fait ont tué les anguilles jusqu'en Hollande. Mais au-delà des anguilles, le Rhin, c'est aussi une source d'eau potable pour passablement de villes en Allemagne. Hein, donc, elle était devenue impotable. Donc, à la suite de ça, en fait, une commission a été créée pour cette gestion du Rhin et il y a des contrôles assez stricts qui ont été mis en place. C'était les premiers à mettre des normes très strictes sur certaines substances chimiques pour justement avoir une bonne qualité de l'eau du Rhin. Et les villes d'ailleurs qui ont été impactées ont mis en place des contrôles avec de la biologie, et si la biologie meurt, ils arrêtent les pompages dans le Rhin. Donc voilà. Mais du coup, ce qu'a eu aussi comme influence, c'est que les entreprises qui produisaient sur le Rhin des substances potentiellement problématiques ont délocalisé, donc en Suisse, ont délocalisé sur le Rhône. Donc voilà. Et nous, on a été un petit peu plus lent à la réaction pour se rendre compte qu'on retrouvait aussi ces substances dans le Rhône et finalement dans le Léman.
Je vous mentionnais tout à l'heure le chlorothalonil, juste pour savoir, cette substance qui a été interdite en 2020 dans l'Union européenne et en Suisse. Aujourd'hui, on en est où en termes d'assainissement des eaux?
Alors, le chlorothalonil, c'est une substance qui a été interdite parce qu'elle est cancérigène. Et la problématique, c'était pas tellement qu'on trouvait du chlorothalonil dans l'eau, parce que lui, il est très peu soluble, c'est qu'on trouvait ses métabolites. Puis comme il est cancérigène, comme dans le cas du 1,2,4-triazole, les métabolites ont été déclarés comme pertinentes. Et elles sont très solubles, donc on les trouve dans des concentrations assez élevées qui font que l'eau a passé de potable à non potable. Et où on en est où? Déjà, le tribunal fédéral a débouté Syngenta la semaine passée, qui voulait permettre que le chlorothalonil ne soit pas interdit. Enfin, donc ils ont été déboutés. Par contre, au niveau des métabolites, ça a obligé de nouveau les producteurs d'eau à s'adapter, soit en diluant leurs eaux avec, par exemple, des eaux du Léman, parce que là, on avait plutôt une problématique d'eau souterraine. Donc, on a dilué les eaux souterraines avec les eaux du Léman. Peut-être qu'on fera le contraire pour un 1,2,4-triazole. Ou alors, justement, de réfléchir à des moyens de traiter. Mais maintenant, on a cette problématique du 1,2,4-triazole, et peut-être dans 2 ans, on aura une autre problématique. Et chaque molécule, toutes les molécules ne peuvent pas se traiter avec le même système de traitement. Donc, on voit qu'on va devoir s'adapter à chaque fois si on va dans cette direction.
Mais à propos du chlorothalonil, on a beaucoup dit il y a 6 ans que le coût de l'eau allait augmenter. Qu'en est-il réellement?
Alors ça, c'est une vraie question, savoir qui va être maintenant responsable pour le traitement de cette eau. On voit qu'on a certaines municipalités qui ont déjà d'ores et déjà annoncé, hein, c'est une augmentation du coût de l'eau et donc une répercussion, si on veut, de ce coût de la pollution sur la population, ce qui pose quand même un problème sur le principe de pollueur-payeur. Donc le problème étant simplement que pour établir la cause, évidemment, ça va prendre du temps et qu'il faut quand même pouvoir être en capacité d'agir dans l'intervalle. Mais effectivement, sur le principe à la fois juridique et éthique, quelque part, là, on est face à un vrai problème.
C'est très récemment que ce principe du pollueur-payeur a été vraiment pris en main par les juristes. Et j'ai des collègues en école d'école de sciences criminelles notamment, et aussi de l'école de droit, qui se sont penchés là-dessus. Et un des gros problèmes, c'est aussi qu'il faut montrer l'intentionnalité. C'est-à-dire que pour qu'on soit vraiment un pollueur, il faut qu'on ait une intention de polluer. Et si ce n'est pas le cas, c'est difficile, même si on a la preuve que la pollution vient d'une industrie ou d'une personne privée, si elle n'avait pas l'intention de polluer vraiment, du coup, c'est difficile d'aller au pénal avec ça.
Troisième extrait de nos reportages diffusés toute cette semaine dans Vacarme. La nappe du Genevois constitue la réserve en eau potable souterraine la plus importante du canton de Genève. Nous voici donc bientôt au fond d'un puits.
Renaud Chantry, vous êtes le directeur du service de géologie, sol et déchets du canton de Genève. On est dans la campagne genevoise ici. On va se diriger où maintenant?
Donc on se dirige vers un ouvrage de surveillance et de captage de la nappe du Genevois.
On ne peut pas dire exactement où on se trouve, hein, c'est ça?
Voilà, ce sont des ouvrages qui sont stratégiques pour l'alimentation en eau du canton. Et donc, à ce titre, ils sont relativement discrets. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur.
Bienvenue.
C'est quoi cet instrument?
C'est un multigaz pour regarder justement les différents gaz qui pourraient y avoir au fond du puits.
Donc là, on est arrivé vers ce petit hublot qui est à nos pieds.
On voit le niveau de l'eau dans l'ouvrage de captage. Donc on observe l'eau qui est en équilibre dans l'aquifère. c'est un peu émouvant pour moi puisque c'est une ressource qui est profonde, donc on n'a aucun moyen de l'observer de visu, si ce n'est dans un ouvrage comme celui-ci. Donc pour ma part, c'est la première fois que je le vois. Et on la voit là, toute tranquille, en équilibre avec son environnement.
Ça vous fait quoi de la voir ?
Ben, je me rends compte que c'est un trésor et la seule possibilité de pouvoir continuer à l'exploiter dans le futur, c'est de le protéger. Donc je suis ému de la voir là, toute tranquille, et légèrement brillante, discrète. Et puis c'est exactement ça, cette eau souterraine, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous nos robinets alors qu'on ne la voit jamais. L'alimentation en eau potable à Genève est assurée à 80% avec l'eau du lac, environ 20% avec l'eau de la nappe du Genevois. Et en cas de pollution au niveau des eaux du lac, on pourrait augmenter temporairement, fortement, cette proportion au niveau des eaux de la nappe du Genevois. Il faut savoir que pour assurer le maintien de cette ressource stratégique, on va booster un petit peu la réalimentation en assurant au niveau des zones en contact avec larves, disons, on va pomper les eaux de larves pour en amener encore plus dans la nappe. Et ce qui permet d'assurer le maintien des niveaux sur le long terme avec les différents besoins, tant du côté suisse que français.
Aujourd'hui, comment se porte la qualité de l'eau de la nappe phréatique ?
Au niveau de la nappe du Genevois, on a une excellente qualité de l'eau. Elle est très bien protégée de toutes les activités humaines et industrielles, ce qui veut dire qu'au niveau de toutes les pollutions nouvelles dont on parle beaucoup, on ne retrouve en rien ces éléments, notamment les PFAS ou le triazole. Ils ne sont absolument pas présents dans l'eau de la nappe du Genevois.
Comment on fait pour éviter qu'un épisode tel que celui du perchlorate se reproduise ?
Donc on réalise des surveillances au niveau de larves et de la qualité de ces eaux. Et puis également au niveau des activités industrielles dans le bassin de larves, étant donné que nos voisins français sont également consommateurs de l'eau de la nappe, il y a une surveillance et puis un contrôle qui est réalisé au niveau de ces sites industriels de manière à ce qu'une contamination du type perchlorate ne puisse plus se passer à l'avenir.
Des propos recueillis par Quentin Bollen. Rappelons qu'en 2017, la nappe a été contaminée au perchlorate par une usine explosive dans la vallée de l'Arve, en France. On y reviendra sans doute. Ni PFAS, ni triazole dans les eaux souterraines de la nappe du Genevois. Est-ce que vous y croyez, l'un et l'autre ?
C'est pas une question d'y croire ou pas. S'ils ont fait des analyses et que c'est en dessous des limites de détection, c'est qu'il n'y en a pas. Après, c'est vrai que les eaux souterraines peuvent être contaminées par ce qui vient de la surface. Donc, dans les zones agricoles, on trouve très facilement des pesticides. On a parlé avant du chlorothalonil et de ses métabolites. On va les trouver dans les eaux souterraines. Et puis, là, en fait, la nappe, les eaux souterraines sont rechargées par une rivière. Et là, on sait qu'on trouve des polluants en rivière. Donc, il y a des risques, effectivement. On retrouve dans la nappe ce qui est présent dans la rivière.
Christian Bretteau sur cette question.
Oui, enfin, ma réaction, c'est surtout que cela induit d'avoir un périmètre de gestion qui dépasse simplement la nappe en tant que telle. Surtout dans un périmètre transfrontalier, on a ici un bassin de larves qui est principalement situé en France. Donc il faut vraiment passablement entendre en fait l'espace fonctionnel qui permet de gérer la qualité de l'eau. Est-ce qu'il y a un enjeu en soi ? Est-ce qui n'est pas forcément toujours le cas ? Là, on a effectivement un accord transfrontalier pour la gestion de la nappe du Genevois qui est extrêmement fondateur et très bien connu parce que c'est l'un des plus vieux et des plus consistants, on dira. Mais on n'a pas forcément un accord de ce même type qui permette d'assurer la qualité de l'eau qui vient de larves et qui permet de recharger ensuite la nappe. Donc je pense que ça demande de changer un peu l'échelle de gestion et d'y réfléchir pour s'assurer que la nappe soit protégée sur le long terme, évidemment.
Mmh. Racontez-nous pourquoi cet accord est si important et fondateur.
Alors ce qui est intéressant pour les aquifères transfrontaliers, donc qui regroupent différents pays ensemble, c'est qu'aujourd'hui on a très peu d'accords qui existent à l'échelle globale pour gérer ce type d'objet. On a environ 7-8 accords qui existent et dans la plupart des cas...
Dans le monde entier.
Et dans la plupart des cas, c'est vraiment plutôt des déclarations de principe ou d'intention. Donc là, on a un accord qui a été signé en 1977, donc qui est déjà très précurseur et innovant dans sa capacité à mettre ensemble la Suisse et la France pour la gestion d'une nappe partagée, mais qui va ensuite, en plus, définir un mécanisme de réalimentation à travers la larve. Donc on a déjà une complexité et aussi des éléments procéduraux qui sont très bien cadrés par cet accord transfrontalier. Donc c'est assez impressionnant de voir cet accord qui a été signé en 1977 sur ces questions-là. Et c'est un accord qui, aujourd'hui, influence d'autres régions du monde pour réfléchir à comment est-ce que l'on peut coopérer autour du partage d'une nappe phréatique, justement.
Où ça ?
Par exemple, nous, on a facilité des discussions sénégalo-mauritaniennes sur ces questions-là, où l'on a fait simplement venir les missions diplomatiques à Genève, notamment pour célébrer le 40e anniversaire de cette nappe, la nappe du Genevois, ce qui a débouché sur un processus de médiation et sur la volonté d'une déclaration ministérielle de ces États pour s'engager dans des discussions, pour définir un accord cadre qui permette de gérer ces nappes phréatiques à l'échelle transfrontalière. C'est d'autant plus important que l'on a quand même aujourd'hui plus de 400 aquifères transfrontaliers qui ne sont pas cadrés par un quelconque accord à l'échelle transfrontalière et que l'on sait que les eaux souterraines, c'est 30% de l'approvisionnement global en eau à l'échelle de la planète. Donc il y a une nécessité d'avoir des accords qui permettent justement de cadrer ces enjeux-là et de les protéger.
Et de prévenir certains conflits aussi.
Exactement.
Nathalie Chef.
Oui, je voulais juste réagir par rapport à la protection des eaux souterraines parce qu'on s'est rendu compte, il y a eu le scandale Nestlé l'année passée, ou il y a 2 ans, par rapport au fait qu'ils filtraient leurs eaux. Ces eaux souterraines, si on ne les protège pas, effectivement, elles sont contaminées par des substances et puis ben, on doit les traiter. Et au-delà de l'aspect transfrontalier, même au niveau national, la protection des eaux souterraines en Suisse, c'est un problème. On a des conflits d'usage dans les zones de protection avec l'agriculture, mais aussi peut-être des gravières, des standards, enfin, des stantires, etc., qui sont dans ces zones-là. Et c'est extrêmement complexe d'arriver à protéger correctement les eaux souterraines.
Je voudrais que pour conclure, vous nous donniez quelques bons gestes citoyens à accomplir pour la protection de l'eau.
Bon geste citoyen, c'est toujours un peu... C'est clair que là, on a parlé d'effluents industriels, donc quelque part, c'est au-delà des gestes que l'on peut faire. Mais moi, j'aime bien rappeler 2 choses. La première, c'est que je travaille actuellement beaucoup sur les médicaments dans les eaux, qui, eux, ne proviennent pas seulement des industries, mais aussi de nos usages de médicaments. Donc là, on travaille avec les médecins sur les questions d'éco-prescription, de déprescription, donc réfléchir à notre usage de médicaments qui finissent dans l'eau et dans l'eau potable. Et dans le même ordre d'idée, il y a tout ce qui est cosmétique, qui est aussi dans le même ordre, ou qui vont finir dans les eaux et potentiellement dans notre eau potable. Et ce sera peut-être le problème du futur, d'ailleurs.
Christian Breton.
Oui, de mon point de vue, au-delà d'avoir un aspect comme prescripteur sur ce que l'on doit faire ou pas faire, je pense que ce qui est surtout important, c'est de retisser notre lien avec la ressource en eau. On a trop souvent vu le système hydrologique comme vraiment à travers le prisme de la production, justement, soutien des usages, production d'eau potable, soutien à l'usage industriel. Mais on a quelque part oublié ce qu'était notre lien avec la ressource. Et je pense que reconstruire ce lien va permettre aussi de repenser nos liens avec la durabilité. Vous mentionniez plus tôt la question de la personnalité juridique. C'est par exemple un des leviers qui nous permet de réfléchir un peu mieux à ce que l'on veut faire de ces ressources partagées aujourd'hui et dans le futur.
Eh bien, en attendant, c'est Deep Purple qui met le feu au lac. Nous avions le plaisir de recevoir ce matin l'écotoxicologue Nathalie Chèvre, professeure associée à l'Université de Lausanne, et le géographe Christian Bretot, professeur associé en gouvernance de l'eau et co-directeur de la chaire UNESCO en hydropolitique de l'Université de Genève. Merci à tous les deux et belle suite de dimanche.
Merci à vous.
Merci.
Les reportages de la semaine étaient signés Quentin Bollen, ils étaient réalisés par Jonathan Aslebacher. Au générique de cette émission, il y avait également Stéphanie Jovanovic, Caroline Aurel, Valérie Danton et David Golan. Après le lac, la montagne. La semaine prochaine, Vacarme gravit quelques sommets et s'intéresse à l'alpinisme, une pratique inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO depuis 2019, pratique soumise à de profondes mutations entre surtourisme et changement climatique. L'alpinisme en plein vertige, une série de Maya Cholet à découvrir ou redécouvrir demain dès 13h sur RTS Première ou en tout temps sur l'app Play RTS.
Les échos de Vacarme.